Accent d'Europe, Juliette Garbrand.
Bonjour à toutes et à tous. Les manifestations se poursuivent en Géorgie. Plus de 200 personnes ont été interpellées et plus de 40 hospitalisées, selon le ministère de l'Intérieur, depuis jeudi dernier. Après l'annonce de la suspension du processus d'adhésion à l'Union européenne par le gouvernement, les rassemblements ont commencé dans les grandes villes, mais aussi dans les zones rurales. 80% de la population du pays soutient cette adhésion et les manifestants dénoncent un rapprochement des autorités avec la Russie. Influence étrangère, valeurs familiales, des textes répressifs similaires sont adoptés par le rêve géorgien au pouvoir, et notamment une loi qui réprime la liberté d'orientation sexuelle. Elle doit entrer en vigueur ce mois-ci. Et à Tbilissi, l'inquiétude grandit dans la communauté LGBTQI. La capitale progressiste était jusqu'ici une bulle de liberté dans une région où les droits humains sont souvent réprimés, mais cette liberté est aujourd'hui menacée. Reportage Romain Dussen.
Dans cette galerie branchée du centre-ville, une cinquantaine de personnes assistent à une performance du comédien queer Matt Chali entre danse, chant et monologue théâtral.
Son personnage était à la fois pétillant et amusant.
Mariam Kvaratsrelia est la cofondatrice de l'organisation Queer Initiative.
Mais aussi en colère, triste et qui a dû traverser des événements douloureux.
Un spectacle comme il en existe des dizaines à Tbilissi, en tout cas pour le moment, avant l'entrée en vigueur prochaine de la loi anti-LGBT. Ce texte sur les valeurs familiales et la protection des mineurs prévoit notamment l'interdiction des rassemblements qui font la promotion des relations homosexuelles. Une loi qui risque de conduire à davantage de répression, d'après Mariam Kvaratsrelia.
Cette législation de type russe ou hongrois restreint sévèrement et viole même les droits fondamentaux des personnes LGBTQI. Par exemple, tout type d'intervention médicale pour les personnes transgenres, depuis les thérapies hormonales jusqu'aux opérations chirurgicales, est interdit. Et il y aura des poursuites pénales si un médecin ou une clinique ose offrir ses services aux personnes transgenres. Cette loi va censurer l'art, le cinéma, l'éducation, et puis le droit à se réunir pacifiquement, le droit à n'importe quel rassemblement.
Avec ses bars gays et ses clubs techno inclusifs, Tbilissi a longtemps été considéré comme une bulle de liberté dans le Caucase. En Arménie, l'homosexualité n'est légale que depuis 2003, tandis que l'Azerbaïdjan occupe la dernière place du Rainbow Index, classement qui évalue les droits des personnes LGBT en Europe. Mais selon Gvantsia Pertia, activiste de la cause queer en Géorgie, cette période de progressisme serait aujourd'hui révolue.
Pendant des années, l'acceptation des personnes et des droits LGBT s'est améliorée. Mais depuis 2 ans, c'est très compliqué. On ne peut plus vraiment organiser des événements, même privés. L'année dernière, on a été attaqué quand on a voulu célébrer la marche des fiertés. Pourtant, on l'avait déjà fait ces 2 dernières années.
Selon l'étudiante qui assume dans la vie comme sur les réseaux sociaux être en couple avec une femme, les actes homophobes ont bondi dans le pays. En septembre dernier, au lendemain de l'adoption de la loi anti-LGBT par le Parlement, une influenceuse transgenre a été retrouvée morte, poignardée à plusieurs reprises par son ex-petit ami. Le parti au pouvoir pro-russe a largement misé sur le rejet de l'homosexualité par la société géorgienne conservatrice avant d'assurer sa réélection fin octobre.
C'est le principal combat du rêve géorgien aujourd'hui. Nous sommes des cibles. Les personnes queer sont des cibles. J'ai été agressée 2, 3 fois. Je ne compte même plus parce que je ne me cache pas. Les télés pro-gouvernementales ont diffusé des vidéos de ma copine et moi où l'on s'embrasse et racontent aux gens que nous vivons dans le péché, que nous sommes de mauvaises citoyennes, voire le diable, des conneries comme ça.
Si la situation des personnes LGBT est loin d'être parfaite en Géorgie, certains activistes de la première heure tentent de relativiser, préférant se concentrer sur les progrès réalisés au fil des années. Ces avancées passent par une perte d'influence de l'Église, rattachée au patriarcat de Moscou selon Gheorghe Kikonishvili, cofondateur du collectif Spectrum qui fait la promotion des artistes queer géorgiens et régionaux.
Même si l'écrasante majorité des Géorgiens se disent chrétiens orthodoxes, ce sont des mots, ça ne se traduit pas en action. Souvent, la dernière fois qu'ils sont allés à l'église, c'était il y a 1 ou 2 ans. Dans la jeune génération en particulier, ils sont plus éloignés de l'église et de ses valeurs conservatrices. Avec Internet et les réseaux sociaux, ils considèrent qu'ils appartiennent à une culture et à une société plus large.
Une jeunesse connectée et ouverte d'esprit qui se retrouve au Bassiani, lieu emblématique de cette scène underground foisonnante, installée dans les travées du stade de football du Dynamo de Tbilissi, et notamment lors des Nuits Horum, les toutes premières soirées LGBT de Géorgie, cofondées par Gheorghi Kikonishvili.
À Tbilissi, on crée une communauté internationale et régionale. On travaille ensemble, on vit ensemble, on danse ensemble. Et je pense que c'est une partie importante de la culture club qui unit des gens qui ont des soucis dans leur pays. Quand tu vois des Arméniens et des Azerbaïdjanais queer danser ensemble sur la piste du Bassiani, tu te rends compte que c'est un endroit à part.
En Géorgie, la loi anti-LGBT sur les valeurs familiales doit entrer en vigueur en décembre. Son adoption définitive pourrait sérieusement compromettre les chances d'adhésion de la Géorgie à l'Union européenne.
Au sein même de l'Union européenne, les libertés individuelles peuvent être menacées. La Hongrie, du premier ministre ultranationaliste Viktor Orban, est le premier pays des 27 à avoir importé une loi homophobe, inspirée justement du texte russe de 2013. Et cette loi est au cœur d'un bras de fer entre Budapest et la Commission européenne. Cette dernière estime que la loi est discriminatoire et viole les traités communautaires. La Commission a donc porté plainte devant la Cour de justice européenne et le procès a débuté il y a 2 semaines. À Budapest, les précisions de Florence Labruyère.
C'est un procès retentissant qui vient de s'ouvrir devant la Cour située au Luxembourg, car 16 États membres, dont la France et l'Allemagne, se sont associés à la Commission dans cette affaire. La loi controversée est une attaque frontale contre l'état de droit et contre la société européenne, a déclaré un avocat de la Commission à l'ouverture des débats. Le texte incriminé interdit la représentation ou la promotion de l'homosexualité et du changement de sexe auprès des mineurs. Concrètement, une chaîne télévisée ne peut pas diffuser pendant la journée un film avec des personnages homosexuels ou transgenres. Quant aux livres dans lesquels figurait ce type de personnage, il n'est pas interdit de les vendre, mais ils ne doivent pas être accessibles aux enfants. Le cas d'un recueil de contes de fées a souligné l'absurdité de la loi. Ce livre revisite des contes de fées classiques. Il présente notamment une nouvelle version de Cendrillon, dans laquelle le prince épouse un autre prince. Les libraires doivent prendre toutes sortes de précautions pour le vendre, comme le raconte Mathé, libraire dans le centre-ville de Budapest.
We are close to a church and a school.
Comme notre librairie est à moins de 200 mètres d'une école et d'une église, la loi nous interdit d'exposer ce livre au regard des enfants. C'est comme si ce recueil était une prostituée qui n'a pas le droit de racoler des clients. On l'a mis au fond et on l'a emballé sous plastique comme la loi l'exige. Pas très attirant, mais si on le cherche, on le trouve.
Certaines librairies ont refusé d'emballer des livres et ont été condamnées à des amendes. Pour la Commission européenne, cette loi est discriminatoire. Elle veut rendre invisibles les minorités sexuelles. C'est une violation flagrante de l'article 2 du traité sur l'Union européenne, qui dit que l'Union est fondée sur le respect des droits de l'homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités. La loi hongroise enfreint aussi les directives européennes sur le commerce et les médias. Le gouvernement hongrois affirme pour sa part que le texte vise à protéger les mineurs. C'est aux parents d'informer les enfants sur la sexualité et les questions de genre, qui n'ont pas le droit d'être abordés à l'école. Comme dans beaucoup d'affaires, le gouvernement hongrois sera probablement condamné. Il devra alors abroger la loi et payer une amende. Mais le gouvernement Orban a plus d'un tour dans son sac. En 2020, il avait été condamné par la justice européenne à annuler une loi qui traitait les ONG des droits de l'homme comme des agents de l'étranger. 3 ans plus tard, le parti de Viktor Orban a voté un nouveau texte ciblant les ONG et les médias, une loi encore plus dure que la précédente.
Florence Labruyère, merci. Alors que l'éventuelle signature d'un accord avec le Mercosur, espace de libre-échange sud-américain, continue de diviser les pays de l'Union européenne, un accord du même type fait beaucoup moins débat. C'est celui qui a été signé avec la Moldavie, pays frontalier de l'Ukraine. Depuis son entrée en vigueur en 2016, cet accord permet aux agriculteurs moldaves de diversifier leur marché en se tournant davantage vers l'Ouest et moins vers la Russie. Si bien qu'en 2023, la Moldavie a été le principal exportateur de prunes vers le marché communautaire. Certains producteurs moldaves espèrent d'ailleurs l'adhésion prochaine de leur pays à l'Union européenne, mais le référendum du mois d'octobre l'a montré, le pays reste divisé sur la question et les petits et moyens agriculteurs se sentent délaissés. C'est un reportage de Maria Gert Niculescu.
Dans le sud de la Moldavie, à quelques pas de la frontière ukrainienne, c'est ici que Ion Tulea et son père ont établi leur production de fruits destinés à l'export. Pommes, cerises, prunes, une fierté pour cet ancien comptable revenu investir dans son pays après plusieurs années aux États-Unis.
Ces arbres ont été plantés en 2011. Ils ont 13 ans. La prune Stanley s'associe très bien à notre climat. C'est une variété savoureuse qui se préserve bien et se produit assez facilement.
La Moldavie, longtemps un des greniers de l'Union soviétique, se tourne désormais vers le marché européen. L'an dernier, elle a été le principal exportateur de prunes vers l'Union européenne avec 60 000 tonnes, soit près de 80% de la production du pays, une tendance qui se confirme cette année encore.
95% de notre production de prunes pour 2024 a déjà été vendue dans l'Union européenne.
La guerre en Ukraine et les embargos régulièrement imposés par la Russie ont forcé les agriculteurs moldaves à chercher des alternatives. Depuis 2022, Ion n'a plus accès au port d'Odessa, situé à 60 km de chez lui.
Maintenant, pour exporter par voie maritime, je dois passer par Constanța, en Roumanie, à 550 km.
Alors pour lui, comme pour beaucoup d'autres, l'Union européenne s'est imposée comme une évidence.
Le marché européen est un marché clair, prévisible et correct, avec 500 millions de consommateurs, et il est situé à proximité immédiate.
Déjà en 2014, les agriculteurs moldaves ont commencé à se tourner vers l'Ouest, après un accord de libre-échange signé entre la Moldavie et l'Union européenne. Stas Madan, économiste et membre du think tank Expert Group.
La Russie a toujours utilisé les instruments économiques pour mettre la pression. En 2006 et 2013, il y a eu les embargos sur nos vins. Et en 2014, lorsque l'accord de libre-échange a été signé avec l'UE, la Russie a imposé des taxes douanières sur les produits moldaves les plus exportés.
La rupture entre Chisinau et Moscou est désormais consommée. La présidente Maia Sandu, pro-européenne convaincue, soutient ouvertement l'Ukraine et accuse la Russie de mener une guerre hybride en Moldavie. Le pays a aussi débuté cette année les négociations d'adhésion à l'Union européenne. Une perspective qui réjouit Yuri Efal, directeur de l'association de producteurs Moldova Fruct.
Nous misons beaucoup sur l'adhésion à l'Union européenne. Le fait de faire partie d'une union douanière, d'une communauté de pays stable et prévisible politiquement et économiquement, nous permettrait de nous développer plus rapidement. Cela faciliterait les transferts technologiques et nous aurions accès à plus de ressources pour développer notre secteur.
Des ressources qui seront essentielles pour aider les agriculteurs moldaves à faire face au changement climatique. Cette année encore, sécheresse et canicule ont compromis une grande partie des récoltes. Autre problème majeur, la pénurie de main-d'œuvre. La Moldavie fait face à une des pires crises démographiques du continent en raison d'un exode massif des populations vers l'Europe de l'Ouest. Pour pallier ce manque, certains producteurs investissent dans des équipements automatisés. Zinaida Plumedale, 33 ans, gère 40 hectares de prunes avec sa sœur et son frère. Il y a quelques mois, ils ont acheté une machine de tri de très haute technologie.
C'est une ligne qui permet de trier les prunes par diamètre, calibre, couleur, défauts internes et externes.
Mais ces investissements technologiques sont coûteux, rendus possibles uniquement grâce aux subventions de l'État, quasiment inaccessibles pour une grande partie des agriculteurs. Alexandru Badalau dirige une association de petits et moyens producteurs.
La loi actuelle est discriminante dans le sens où ceux qui ont de l'argent et investissent sont ceux qui sont subventionnés.
Il assure que des milliers d'agriculteurs pourraient faire faillite dans les prochains mois après une troisième année de sécheresse consécutive. Une situation qui explique, selon lui, pourquoi une partie de la population rurale a voté contre le référendum sur l'adhésion à l'Union européenne du 20 octobre dernier.
Les agriculteurs souhaitent l'adhésion à l'Union européenne, mais pas de la manière dont le fait le gouvernement actuel, en étant pressé d'intégrer l'UE à n'importe quel prix.
Seuls 50,3% des Moldaves se sont prononcés en faveur de l'adhésion à l'Union européenne. Selon le gouvernement, la Moldavie pourrait intégrer l'Union européenne d'ici 2030, un objectif qui repose en partie sur la victoire des partis pro-européens lors des élections de l'année prochaine. Mais les résultats restent incertains, alors que la Russie pourrait poursuivre ses opérations d'ingérence.
La Côte d'Ivoire a rejoint la liste des pays sûrs établie par le gouvernement italien. Cette définition permet d'argumenter que les demandeurs d'asile d'un pays dit sûr n'ont a priori pas besoin de protection et peuvent donc être renvoyés. Les autorités italiennes espèrent ainsi faciliter l'envoi des migrants ivoiriens en rétention en Albanie. En visite à Abidjan cet été, le ministre italien de l'Intérieur s'était félicité d'une baisse du nombre de migrants ressortissants de ce pays. Mais depuis quelques années, les associations italiennes constatent au contraire une forte augmentation du nombre de femmes migrantes ivoiriennes. Et on en parle avec l'une de nos correspondantes en Italie, Cécile Debarge. Cécile, c'est notamment le cas dans l'ouest de la Sicile où l'association Pénélope s'inquiète du phénomène.
On pourrait le résumer par cette expression « nouvelle vague ». C'est le titre de leur campagne de sensibilisation. C'est surtout l'idée qu'une nouvelle vague de femmes africaines a remplacé les femmes nigérianes dans les réseaux d'exploitation en Europe. Lorsqu'on parle aujourd'hui de traite des femmes migrantes africaines, on se réfère dans la quasi-totalité des cas au réseau criminel nigérian. C'est un sujet dont se sont emparés les médias en premier lieu, mais surtout les polices et systèmes judiciaires européens depuis plusieurs années. Le président de l'association Pénélope explique lui comment depuis à minima 2 ans, il s'agit désormais principalement de femmes ivoiriennes et plus largement originaires de pays d'Afrique francophone comme la Guinée. Écoutez-le.
À partir de 2020, il arrivait seulement des ivoiriennes. En 3 ans, elles ont été 5000 environ, contre presque aucune nigériane. Donc il y a eu un vrai changement d'origine des migrantes arrivées en Italie. N'importe qui, même un aveugle, pouvait comprendre que leur arrivée ne s'expliquait pas que par la nécessité de fuir des situations de violence ou de mariage forcé. On a mis près d'un an et demi à faire accepter cette idée.
Pour avoir des ordres de grandeur en tête, en 2023, les Ivoiriens étaient la nationalité la plus représentée parmi les migrants arrivés sur les côtes italiennes. Ils étaient près de 7921.
Cécile, Giuseppe Bucalo dit qu'il est difficile de faire accepter l'idée qu'il existe un réseau d'exploitation des femmes ivoiriennes et qu'il a fallu un an pour faire émerger le problème. Pourquoi ?
Eh bien, d'abord parce que les modalités de voyage sont assez différentes. Les témoignages qu'ils ont recueillis parlent d'une dette d'environ 3000 euros que contractent ces femmes, dette qu'elles remboursent ensuite presque toujours avec l'argent de la prostitution, mais une dette finalement minime par rapport aux 10-15 000 euros que devaient parfois rembourser les femmes nigérianes prises dans les réseaux de traite. Le voyage, lui, est souvent géré par des cellules autonomes les unes des autres, et non pas, comme pour les nigérianes, du pays d'origine jusqu'au pays d'arrivée. Pays d'arrivée qui, dans le cas des femmes ivoiriennes, est presque toujours la France. Et tout cela s'explique par une organisation bien différente de ces réseaux, selon Giuseppe Bucalo.
Ce n'est pas une organisation verticale. Par exemple, ceux qui les font voyager de la Tunisie à la Libye ne gèrent que cette partie-là. C'est pour ça que c'est encore difficilement considéré comme de la traite. Mais c'est bel et bien de la traite, car le but, c'est toujours l'exploitation. Même si ce n'était pas la cause du départ, le voyage se finit par une situation d'exploitation.
Et quelle forme prend cette exploitation ?
C'est une exploitation au sens large. Giuseppe Bucalo revient sur certains des témoignages recueillis par ces travailleuses sociales.
L'exploitation sexuelle est un classique et ça se passe surtout dans des maisons privées. Mais une jeune femme nous a aussi raconté qu'elle était allée travailler dans un magasin à Paris avec une autre francophone et qu'elle se prostituait dans l'arrière-boutique. Donc exploitation sexuelle et esclavage domestique.
Souvent, l'Italie n'est qu'un pays de transit pour ces femmes qui ont déjà des contacts en France. Pour l'association, la difficulté, c'est de les intercepter et de leur proposer des alternatives en Italie aux situations d'exploitation qu'elles risquent de connaître. Les travailleurs sociaux estiment qu'ils arrivent à retenir entre 10 et 15% de ces femmes, pas plus. Ils militent entre autres pour l'ouverture de couloirs humanitaires depuis la Tunisie, qui est souvent d'ailleurs le dernier pays avant le départ pour l'Europe, mais aussi une meilleure coordination entre France et Italie pour identifier plus rapidement ces cas d'exploitation.
Merci Cécile Debarge, à bientôt. Cette émission a été réalisée par Théo Raison. Vous nous retrouvez bien sûr en podcast sur l'application Pure Radio et demain, même heure, même fréquence.